Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Te remercions pour ce salut précieux, pour cette grâce que tu nous as faite. Merci du privilège de pouvoir partager ensemble nos sujets de prière, de les porter. Merci de pouvoir ouvrir ensemble ta parole et de l'étudier. Je te prie que tu nous conduises par ton esprit ce soir, que tu illumines nos cœurs afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi, que tu puisses être glorifié dans nos vies. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, on va continuer, comme c'est le mois de décembre, un petit peu, voir un peu les textes, on appelle ça de la nativité, un peu, souvent on dit comme ça. Mais je vais commencer par une question. Selon vous, alors vous laissez vos Bibles fermées, question avec Bible fermée, quels sont les principaux, ceux qui vous viennent à l'esprit tout de suite, hein, les principaux textes de la nativité, hein. Je veux dire, moi je vous donne un exemple, vous dites, voilà, l'annonce des anges, de l'ange à Marie par exemple, hein. Annonciation. Okay. Donc quels sont ceux qui vous viennent à l'esprit? Vous pensez à Noël, au texte nativité, quels sont les textes qui vous viennent? Alors ici on pose la question, c'est que ça va être difficile. Ésaïe 9, c'est ce qui te vient le premier à l'esprit. Ésaïe 9. C'est bien ça. Jean 1, d'accord. Luc 2. Ah, Luc 2, 14, précisément, Luc 2, 14, d'accord. Bien. Ça dit quoi, Luc 2, 14? D'accord, ok. D'accord. Bon, oui. Donc, si vous avez un verset, vous pouvez aussi des textes, hein, globalement des textes. Les cantiques, oui. Benedictus, Magnifica et Nunc, comment on dit? Dimitis, hein, ça veut dire c'est Siméon, ça, hein, c'est tout. Hein. Vous dites Siméon, c'est pareil. Hein. Oui, voilà, donc on a dit les cantiques. 1 Timothée 1, 15. Alors, vas-y. Digne d'être reçu. Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. D'accord. Ouais. D'accord. Né d'une femme, né sous la loi. D'accord. Mais est-ce que ce sont des textes qui vous viennent le premier à l'esprit? En réfléchissant, on ajoute, mais en général, on pense à Matthieu et Luc. Et je dirais même, on pense à Luc. D'accord. Mais, il y en a d'autres que vous n'avez pas cité, donc dites-moi encore votre texte. Les mages. C'est Matthieu. Les mages. Ça, c'est Michée, l'Ancien Testament, d'accord. Citation des scribes, d'accord, ok. Très bien, c'est bien. Mais en général, pourquoi je vous pose cette question? Parce que il y a souvent des textes qu'on passe sous silence, hein. Quand on parle de Noël, qui viennent pas forcément à notre esprit et qui se situent pourtant dans on pourrait dire cette période de l'Annonciation, de la naissance de Jésus. Alors on pense, c'est vrai, aux mages, mais par exemple on ne pense pas au massacre des enfants par Hérode. C'était même au moment. On pense pas à la fuite en Égypte et au retour d'Égypte. Et on ne pense surtout pas à la généalogie de Matthieu 1, par exemple. Hein. Pourtant, Matthieu commence par là, à raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Hein. À la fin de la généalogie, au verset 16, Matthieu 1, verset 16, à la fin du verset 17, il parle des générations, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation jusqu'à Jésus-Christ. Et puis il dit, et voici de quelle manière arrive. D'accord? Donc il parle déjà dans la généalogie de Jésus-Christ. Mais ce sont des textes qu'on n'évoque pas forcément tout à fait toujours en lien avec la naissance de Jésus. Mais j'aimerais en considérer un. On a commencé à parler des mages la semaine dernière. On a parlé de Matthieu chapitre 2. On avait vu, considéré un peu en partie hein, l'histoire avec les mages. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus loin à partir du verset 13, la fuite en Égypte. Hein. Alors, comme je le disais, hein, souvent quand on lit ces textes, on a une idée. Comme ce sont des textes, j'ose dire, hauts en couleur. Je ne sais pas si je dis ça comme ça, c'est-à-dire il y a des personnages. Les mages, tout de suite, ça, il y a une image certainement qui naît dans notre esprit parce qu'on a vu des films, on a joué des scénettes, etc. Peut-être que l'histoire que l'on a, c'est l'histoire des représentations qu'on se fait de ces scènes, quoi, qu'on s'est fait avec ces scènes. Seulement, Matthieu, lui, il raconte quelque chose hein, dans tous ses textes. Et c'est important de nous demander qu'est-ce qu'il raconte. Et d'avoir, non pas, de considérer le texte, non pas depuis les images que nous avons mentalement ici, mais plus du point de vue de l'auteur. C'est comme ça qu'on fait en général quand on lit, hein, il me semble. Hein. On essaie de comprendre la pensée de l'auteur. Et si vous regardez, on avait considéré que c'est un tout petit peu la dernière fois, mais si vous regardez Matthieu, et particulièrement ces textes-là qui sont là dans le chapitre 2, il y a quelque chose qui frappe et qui saute aux yeux. Hein. C'est à chaque fois la référence qu'il fait à une citation de l'Ancien Testament. Par exemple, au chapitre 2, et quand il parle des mages qui sont venus à Jérusalem, et des scribes, il dit au chapitre 2, verset 4, voilà, il dit « Il assembla les principaux sacrificateurs, les scribes, le peuple qui s'informa, etc. » Et ensuite, il dit que les scribes disent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète. » Et il cite le prophète Michée. Et puis, un peu plus loin, au verset 15, je pense, c'est la prochaine, il dit que, verset 14, « Joseph se leva, prit le petit enfant de nuit, sa mère se retira en Égypte, et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Après, il raconte une autre scène. Il dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en grande colère, etc. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit, dit Matthieu, ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée. Donc il raconte, il prend une citation du prophète, il le dit lui-même, Jérémie. Et puis, il raconte le retour de Jésus de la petite famille de l'Égypte en Israël. Et il termine avec le verset 23 en disant, qu'il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc, on pourrait dire qu'il raconte une série d'histoires, et il termine ses histoires à chaque fois avec un point sur un accomplissement d'une parole prophétique. Donc, ce qu'il veut montrer ici, on peut sentir que ce qu'il veut montrer ici, c'est pas tant le détail des histoires que le lien que ces histoires ont avec l'Ancien Testament. L'ancrage, on pourrait dire, scripturaire de ce qui se passe dans les événements qui concernent même le petit enfant Jésus. C'est ça qu'il a comme idée, comme pensée ici, parce qu'il écrit, on l'a dit, hein, il écrit à des juifs qui connaissent l'Ancien Testament, et il veut prouver que Jésus-Christ est bien le roi, le Messie qui a été annoncé, l'Emmanuel, Dieu avec nous, hein, celui qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc, quand on lit, hein, on voit bien que c'est ça qui est son point, si vous voulez, hein, son objectif, que le lecteur puisse aller et voir que le Jésus dont il parle ici, c'est bien celui dont il a été question comme Messie dans l'Ancien Testament, et même les petits événements, les choses qui se passent pour lui, hein, sont dans sa vie, sont des accomplissements de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Alors, bien sûr, alors on va regarder le texte, juste le verset 13 jusqu'au verset 15, là ici. Il dit, donc les mages, rappelez-vous, étaient venus voir Jésus, et puis ils sont divinement avertis, verset 12, de ne pas retourner par le même chemin, de ne pas retourner vers Hérode, qui attendait des informations pour aller, entre guillemets, soi-disant, adorer l'enfant. Et verset 13, il dit, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Voilà, donc c'est juste, on va considérer juste cette petite section-là du récit qui se termine avec une citation du prophète Osée. C'est Osée, chapitre 11 et au verset 1. Alors, Matthieu dit que, voilà, après, Hérode est dans une fureur, on le voit, il y a un danger, un gros danger, voilà, concernant Jésus. Et je vous fais remarquer ici que le personnage important, comme la dernière fois, c'est le petit enfant. On le voit, hein, il dit, Hérode cherche à tuer le petit enfant. Il dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère. Et puis Joseph prit le petit enfant et sa mère. C'est pas dit, il a pris la mère et l'enfant, il a pris l'enfant et la mère. Donc c'est vraiment la protection du petit enfant qui est en jeu ici. On voit, donc Matthieu dit que Dieu protège le Messie, la semence on pourrait dire. Il protège, hein, depuis que Dieu a fait la promesse dans l'Ancien Testament d'envoyer, hein, une postérité de la femme qui va écraser la tête du salon. Du serpent, qu'est-ce que je dis? Du serpent, je suis fatigué. Hein. Du serpent. Il y a eu des tentatives, n'est-ce pas, pour détruire cette semence, mais Dieu a protégé sa promesse. Et c'est pour ça qu'on a entendu dimanche que Noël, c'était la célébration de la promesse du Messie, hein. Et on peut célébrer le fait que Dieu aussi a préservé, hein, tout au long de l'histoire, hein, il a préservé cette semence, cette postérité. Alors l'ange dit à Joseph que il y a un danger grave et imminent concernant le petit enfant et qu'il faut fuir. Il dit pas simplement qu'il faut partir, il emploie un mot qui est fort ici, il faut fuir, il faut se sauver, il faut aller chercher une sécurité en partant de là. Et il dit où est-ce qu'il faut aller, il envoie en Égypte. Alors l'Égypte, c'est assez particulier parce que l'Égypte, ça a été une terre d'esclavage, hein, pour le peuple d'Israël. Et Dieu a délivré son peuple du pays d'Égypte. On se souvient les nombreuses interdictions que Dieu avait faites au peuple concernant le fait de se rendre même en Égypte, hein. Il parlait du quand vous aurez un roi, qu'il n'ait pas beaucoup de chevaux et qu'il n'entraîne pas le peuple en Égypte. Il dit. Donc c'était quelque chose qui était quasiment interdit par Dieu. Dans Jérémie 42, 19, par exemple, il est dit, reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous défends, que je vous le défends aujourd'hui. Donc l'Égypte était une interdiction pour le peuple d'Israël. Et souvenez-vous aussi ce qu'on peut lire dans Ésaïe, hein, lorsque Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, prononce ses paroles dans Ésaïe 30, versets 1 et 2, il dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui sont des alliances sans ma volonté, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Il dit que ça, c'est une malédiction pour quiconque de ses enfants ferait cela. Mais ici, on voit que c'est Dieu lui-même qui commande à Joseph d'amener le petit enfant, d'amener Jésus, d'amener le Messie en Égypte. Et donc, l'Égypte est considéré ici, cette fois-ci, comme une terre d'accueil. Il semblait, dans les commentaires, ils disent qu'à cette époque, il y avait une forte communauté juive, hein, déjà, en Égypte. Et probablement que Marie et Joseph avaient des relations là-bas, parce qu'il y avait quand même, quelques années, même après la mort de Jésus, il y avait plus à peu près 1 million de ressortissants juifs en Égypte. Mais en tout cas, ici, on voit que Dieu donne le commandement de fuir en Égypte. Et c'est intéressant parce que là, c'est lui qui le donne. Hein. Ce n'est pas comme si Joseph partait se réfugier sous la protection de Pharaon. Il part sous la protection de Dieu lui-même et il va dans le lieu que Dieu donne. C'est pas le lieu qui est le problème, en fait, c'est est-ce que là où l'on va, c'est là où Dieu veut que l'on soit. Dieu peut protéger de n'importe quelle manière et n'importe où. Mais ici, il envoie son Messie, si vous voulez, en Égypte. Alors, j'ai une question. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu protéger Jésus autrement? Oui. Il peut faire comme il veut. Il est puissant, il est souverain, il peut tout faire. Et c'est intéressant parce qu'il envoie un ange pour parler à Joseph. Donc ça, c'est une méthode surnaturelle, on pourrait dire. Et puis, il demande à Joseph de faire quelque chose, c'est-à-dire de fuir naturellement. Il doit obéir, il doit faire les bagages, il doit réfléchir à partir de nuit pour ne pas être vu. Donc ça veut dire que le danger était vraiment imminent, il voulait pas, peut-être qu'il a parlé à personne. Et le voyage a duré certainement plusieurs jours. Hein. Donc, vous pouvez chercher sur Internet la distance entre Bethléem et puis les bords de l'Égypte. Il y avait plus d'une entre 100 et 150 kilomètres, il semble, hein, au moins, d'accord. Et cette époque-là, pas de TGV, pas d'avion, pas tout ça, d'accord. Donc, voilà. Dieu aurait pu aussi tuer tout de suite Hérode pour l'empêcher de commettre tout ce qu'il avait à commettre. Il aurait pu les préserver à Bethléem même. Après tout, Dieu avait gardé Moïse dans la maison de Pharaon même, qui voulait tuer tous les enfants hébreux, tous les garçons hébreux. Donc oui, bien sûr, Dieu aurait pu faire autrement, seulement il a décidé de faire comme cela. Hein. Et je crois que Matthieu montre ici que dans toute chose, Dieu agit souverainement. Il protège son Messie, mais il peut le protéger en utilisant à la fois des moyens surnaturels et des moyens naturels pour le garder. Tout n'est pas surnaturel ici, il y a des choses qui sont surnaturelles, mais aussi Dieu montre qu'il œuvre de manière tout à fait, j'ai envie de dire, tout à fait à l'aise dans le domaine surnaturel et tout à fait à l'aise dans le domaine naturel. Dieu, il agit comme il veut. Alors, pourquoi est-ce qu'il envoie en Égypte? Alors, on a dit qu'il aurait pu faire autrement. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il envoie en Égypte? Matthieu donne la raison. Il dit, ici au verset 15, « Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Donc, le souci de Matthieu ici, hein, n'est pas de donner des détails. Il y a des gens qui ont beaucoup parlé sur la période de Jésus pendant qu'il était enfant et en Égypte, hein, des choses qu'il aurait pu faire, etc. Matthieu ne dit absolument rien de tout cela. C'est pas son propos. Son but n'est pas de nous donner des détails sur, ni sur comment ils ont voyagé vraiment, combien de temps le voyage a pris, ni sur le séjour qu'ils ont passé en Égypte. Mais ce qui l'intéresse, et il arrive à son point particulier, c'est de dire que les choses se sont passées ainsi afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et donc, il veut montrer que dans cet épisode de la vie de Jésus, dans sa toute petite enfance, eh bien, on trouve un accomplissement de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et il va citer le prophète Osée. Regardez Osée, donc, avec moi, Osée chapitre 11. Ézéchiel, Daniel, Osée. Joël, donc si, c'est juste pour vous aider à trouver, si vous n'êtes pas habitué à trouver Osée. Osée chapitre 11. Donc, il aurait fallu lire plus que ça pour avoir tout le contexte d'Osée, mais on va lire Osée chapitre 11 et au verset 1. Osée 11, verset 1. Il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Verset 2. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Alors, Matthieu dit que cet épisode de la vie de Jésus, c'est l'accomplissement de cette parole du prophète Osée. La difficulté ici, c'est que on se demande en quoi est-ce que c'est un accomplissement. Parce que est-ce que ce que Osée dit ici est une prophétie au sens où on entend les prophéties habituellement? Est-ce qu'il dit, par exemple, Michée dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui... » D'accord, on est en train de parler de quelque chose qui arrive au futur. Et donc, il dit, et donc, l'origine remonte au temps ancien. Voilà. Donc, il parle d'une origine éternelle, quelque chose qui remonte dans l'éternité, au jour de l'éternité. Et ici, de quoi parle Osée? Si vous regardez bien, Osée parle d'Israël. Osée parle d'Israël, ici. Mais il parle d'Israël dans quel sens ici? Il parle d'Israël dans le fait que quand il était jeune, Dieu dit je l'aimais et je l'ai appelé hors d'Égypte. Donc à quel événement il fait référence ici? Il fait référence à l'Exode. Donc quand on lit ce texte, on ne s'attend pas à quelque chose qui doit se passer. On lit quelque chose, une information sur quelque chose qui s'est passé. Donc c'est pas ce qu'on appelle une prophétie prédictive hein, dans le sens où on l'entend habituellement. Alors on pourrait se demander mais en quoi est-ce que cet exode de l'Égypte que rapporte ici Osée est accompli dans le fait que Jésus aille en Égypte et revienne de l'Égypte. Alors on pourrait penser bien sûr, au fait que Israël aussi est appelé fils de Dieu. Hein, Jésus appelle Israël mon fils. Hein. Dans Exode, je vous lis, Exode chapitre 4, versets 22 et 23, on lit ceci. Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Israël est mon fils, mon premier-né. Et donc, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Là, il dit, Israël est mon fils. Quoi qu'on trouve un peu une expression un peu similaire aussi dans le prophète Jérémie. Donc, on voit donc ici qu'Israël est appelé ici le fils de Dieu. Et étant sorti d'Égypte, le fils avait pour vocation à faire connaître, hein, le Père, à être le serviteur obéissant, qui allait accomplir la volonté du Père. Seulement au verset 2 déjà de Osée, on voit que ça n'a pas été le cas, parce qu'au verset 2, il dit « Mais ils se sont éloignés, ils n'ont pas donc obéi. » à Dieu. Ils ont été désobéissants. Et toute l'histoire d'Osée, c'est de montrer un peuple qui est devenu idolâtre et spirituellement adultère. Hein. Lorsque vous lisez l'histoire d'Osée, Dieu dit à Osée de prendre une femme, etc. Et puis après, elle s'est prostituée. Enfin, et bien sûr, le texte montre l'amour de Dieu pour son peuple, hein, qui est là pour le recevoir à nouveau. Mais il décrit un peuple qui est profondément, qui est descendu vraiment bas et qui n'a pas été le fils qu'il aurait dû être. Donc on pourrait lire tout ça dans Osée chapitre 11 versets 2 et 7, mais pour montrer que ce fils n'a pas été comme il faut. Donc le fils appelé hors d'Égypte, on pourrait dire Israël appelé hors d'Égypte, n'a pas été soumis et n'a pas accompli la volonté de Dieu. Par contre Jésus, lui, le fils par excellence, lui il aussi a été appelé d'Égypte et il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Il a été le Fils bien-aimé. D'accord, hein? Donc, Dieu appelle Israël dans Exode 4, 22, il appelle Israël mon Fils premier-né, mais Jésus, lui, est appelé dans Matthieu 3, 17, mon Fils bien-aimé, hein? Celui en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Matthieu, on pourrait dire qu'il voit dans l'appel du peuple d'Israël à sortir de l'Égypte, il voit ce qu'on appelle, plusieurs appellent ça comme ça, un type de l'appel de Jésus à sortir d'Égypte pour être le serviteur, l'élu de Dieu qui accomplira toute sa volonté. Donc, il voit ça un peu comme ça. On parle souvent d'antitype, d'accord? Il y avait Israël et puis, donc, et Jésus qui est, Israël qui est un type. Donc, la sortie d'Égypte est une illustration de la sortie, c'est comme ça que Matthieu le lit, en tout cas, de la sortie de l'exode, c'est un exode de Jésus, hein, de l'Égypte. Donc, Matthieu ne dit pas que Osée avait ça en tête, forcément, mais on peut presque sous-entendre qu'il dit que c'est ça que Dieu est en train de faire, parce qu'il dit, dans Matthieu qu'on a lu, le verset 15 de Matthieu 2, il dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur, il n'est pas ce que le prophète avait annoncé, mais il dit, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alors, le prophète a dit quelque chose qui est, une réflexion, un rapport sur ce qui s'est passé 700, je sais pas combien de temps, Osée, c'est combien de temps après la sortie d'Égypte? Peut-être 700 ans, presque, je crois, hein. Plutôt, d'accord, la sortie d'Égypte, c'est ce qu'il a raconté, mais il dit, ce que Dieu dit, quelque part, c'est que ça s'accomplit véritablement dans le fait que son fils bien-aimé est appelé d'Égypte pour le servir. Donc l'histoire, si vous voulez, quelque part, c'est que l'histoire d'Israël pointe dans un certain sens vers Christ, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui s'est passé pour Israël, c'est une image, une illustration de ce qui s'accomplit parfaitement en Jésus-Christ. Par exemple, on a la même idée pour le système sacrificiel. Ce ne sont pas des prophéties en tant que telles, hein, c'était des actes, des événements ponctuels qui étaient circonscrits dans le temps, dans l'espace. Mais l'Épître aux Hébreux nous laisse entendre que c'était l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Donc ces choses agissent en tant que type de Christ, illustrent certaines choses sans le décrire complètement, et on trouve le plein accomplissement, la pleine réalité de ces choses en Jésus-Christ ici. Donc c'est ce que Matthieu montre ici. Et quelque part, on pourrait dire que dans tout l'Ancien Testament, eh bien, on trouve beaucoup de types de Christ. Quelqu'un a écrit ceci, il a dit, Matthieu a compris et veut que nous comprenions que quelque chose va au-delà d'une simple prophétie futuriste ou prédictive, hein. C'est-à-dire, c'est pas Osée n'est pas une prophétie au sens où on l'entend. C'est un rapport d'un événement. Mais il dit, mais ce que Matthieu veut nous faire comprendre, c'est que Jésus est l'incarnation presque ultime d'Israël, le type Israël, c'est un type dont Christ est là, et la perfection. Il a enveloppé le véritable caractère de la destinée du peuple de Dieu. Et donc, le fait que Jésus ait été emmené en Égypte et qu'il soit revenu est l'une des façons dont Dieu nous a alerté sur l'importance réelle qui relie Christ à son peuple. Un petit peu. Donc voilà un petit peu comment il décrit ça. Ce que Matthieu fait là, c'est de nous montrer comment Christ est lié à son peuple. Et quand l'ange dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, on pourrait se poser la question de quel peuple il parle. Et il parle du peuple qui est décrit dans la généalogie quand on regarde. Et quand on regarde la généalogie de Matthieu, on peut pas dire qu'il y a de tout, hein. Je sais pas si vous voyez. Et quelqu'un disait que c'est une famille. Jésus est issu d'une famille quasi dysfonctionnelle, hein. Et il dit que tout cela constitue le peuple qu'il est venu racheter. Tout ce peuple-là. Quand il dit, il sauvera son peuple de ses péchés. Déjà dans la généalogie, on voit, hein, en filigrane le péché de tout ce peuple-là ici. Donc il y a une identification quelque part de Jésus avec son peuple, et lui il accomplit de manière parfaite ce que c'est qu'être le peuple de Dieu, le vrai serviteur, l'élu de Dieu qui va le servir. Donc voilà, je crois c'est ce que Matthieu dit ici quand il cite cette histoire. C'est pas simplement pour dire qu'il y avait Hérode, que Jésus est parti en Égypte. Dieu aurait pu le protéger autrement, mais il a dit que Dieu a organisé les choses. Il a organisé sa fuite, son départ en Égypte, et puis son retour en Égypte, en orchestrant les événements, la fureur d'Hérode, toutes ces choses-là, dans le but, il dit, d'accomplir ce qu'avait été, et de montrer que ce qui a été plutôt annoncé par le prophète Osée, et qui concerne la délivrance du pays d'Égypte, trouve son plein accomplissement, ne peut trouver son plein accomplissement qu'en Jésus-Christ. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des applications pour nous dans cela ce soir? Premièrement, on voit comment Dieu dirige le cours de l'histoire, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut, à cette période de Noël, comment Dieu a organisé, dirigé tout le cours de l'histoire pour que le Messie puisse venir comme il devait venir et accomplir tout ce qu'il devait accomplir. Dieu agit de manière en sorte que tout ce qui est dit de lui soit accompli dans l'histoire, je veux dire, naturelle du monde. Hein. Et tout ce qui a été annoncé concernant Christ s'accomplit dans l'histoire naturelle. Même si Dieu intervient des fois de manière surnaturelle pour certaines choses, mais tout le déroulement de l'histoire, hein, tout ce qui concerne ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, s'accomplit à travers lui. Et on dit dans notre catéchisme que la providence de Dieu consiste en ce que, avec une suprême sainteté, sagesse et puissance, il préserve toutes ses créatures et dirige toutes leurs actions. Donc Dieu dispose de tous les moyens, à la fois des moyens surnaturels et des moyens naturels pour accomplir sa volonté. Et il est à l'œuvre, il orchestre toutes choses, et ça se voit dans les similitudes que l'on a, hein, ici dans les choses dans l'Ancien Testament et les choses qui concernent Christ dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que l'Évangile, bien que la bonne nouvelle, n'est pas une nouveauté. Oui, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais ça n'est pas une nouveauté. Quelque chose qui est sorti de la pensée des hommes. Hein. Les gens qui veulent faire croire parfois que l'Évangile, oui, bon, mais ça, c'est, il existait déjà des choses avant, etc. Quand on lit cela, on comprend que, on voit les citations de Matthieu, on voit qu'il fait un effort pour montrer l'ancrage scripturaire de l'Évangile, de la personne de Christ particulièrement, et aussi de l'Évangile, que c'est quelque chose qui est le plan de Dieu de toute éternité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît sur la scène de manière incognito. Non, il met un point d'honneur à montrer, même dans les événements, comment cela a été prévu, préparé et prédit par Dieu. Il y a une continuité qui qui est mise en évidence ici par Matthieu. On a souvent tendance à réduire l'évangile aux évangiles. On dit, c'est quoi l'évangile? Tout de suite, notre esprit se ramène aux évangiles, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ici, avec ce que nous montre le Saint-Esprit, on voit que toute l'Écriture est concernée par l'Évangile. L'Évangile, c'est toute l'Écriture, toute la parole. Noël, c'est pas que les anges qui annoncent aux bergers, à Marie, etc. Ça commence dès avant la fondation du monde, si on ose dire. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Et quelqu'un a dit ceci, je trouve c'est très bien dit, il dit que le Nouveau Testament est dans l'Ancien caché et l'Ancien Testament est dans le Nouveau révélé. On veut le dire un peu plus simplement, c'est-à-dire un peu, il dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Pour montrer qu'il y a cette continuité. Toute l'écriture, c'est l'évangile. Et donc, quand on lit, c'était bien que, une fois j'étais surpris que Charity dise Ésaïe 9, et c'est vrai, hein, Ésaïe 9, c'est aussi Noël. C'est pas qu'à partir de Matthieu qu'on a l'histoire de Noël. Déjà, dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, nous avons l'histoire de Noël. Et puis, troisièmement, on voit, je vais employer un mot, hein, je sais pas si ça existe, mais la christocentricité, ça existe, de l'écriture. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Ça veut dire quoi? Comment l'écriture est centrée sur Christ. Toute l'écriture. Et c'est ça que Matthieu montre aussi à travers ses histoires. Hein. C'est pas des choses qui sont disparates, prises par là, non, toute l'écriture parle de Christ. Toute l'écriture parle de Christ. Et les paroles qui concernent Christ ne sont pas seulement dans ce qu'on appelle les prophéties prédictives. C'est intéressant parce que ça nous pose pas de problème de dire que Michée annonce bien la venue de Jésus. D'accord? Celui qui sera le chef et dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Ça, c'est une prophétie prédictive. Mais Osée, c'est différent. Osée parle d'un événement qui est passé. Et voir Christ là-dedans, c'est beaucoup plus difficile. Mais Matthieu le fait, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne pourrions pas le faire, nous. Et nous ne pouvons le faire dans ce texte que parce que Matthieu l'a fait, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ce que Matthieu fait, il montre que même dans l'Ancien Testament, des choses qui sont dites sont aussi des types et dans un certain sens des prophéties aussi qui concernent Jésus-Christ. Hein. John MacArthur appelle ça des prophéties non verbales. Hein. Il appelle une prophétie prédictive une prophétie verbale et ce type, les choses qui agissent comme des types, il appelle ça des prophéties non verbales, qui ne prédisent pas forcément Christ de cette manière-là, mais qui, dans leur type, pointent vers lui, sans le faire avec des mots. Et donc, toute l'écriture parle de Christ. Rappelez-vous ce que Jésus disait à ses interlocuteurs, juifs qui auscultaient profondément l'Ancien Testament. Il leur dit ceci en Jean chapitre 5, il dit, vous sondez les écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas, dit-il, venir à moi. Et puis, donc on peut dire ici que dans tout l'Ancien Testament, en fait, dans tout l'Ancien Testament, bien, il est question de Christ de manière plus ou moins voilée. Parfois, c'est un peu plus dévoilé quand la prophétie est prédictive, elle est moins lorsqu'elle est typologique, de type typologique. Quand Jésus, après sa résurrection, rencontre les disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez ce qu'il leur dit, ils sont déçus parce que Christ est mort, etc. Et Jésus leur dit, mais ô homme sans intelligence et lent à croire, il le dit comme ça, lent à croire quoi?
J'ai pas entendu.
Tout ce que les prophètes ont dit. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il dit dans ce passage-là, un peu plus tard, par exemple, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est intéressant, hein. Il commence par Moïse, les prophètes, et il fait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et dans un peu plus tard, dans le même évangile, Luc 24, quand ça c'était avec les deux disciples, mais quand ils sont tous dans la chambre là, réunis, il leur apparaît encore, et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc il est en train de montrer que tout ce qu'ils avaient concerne que lui, en fait. Que lui. Et c'est ça que Matthieu s'évertue à faire. Et c'est une chose qui doit nous encourager à lire toute l'écriture. Pas que les évangiles. Pas écouter les gens qui nous disent, j'ai écouté quelqu'un qui disait dernièrement, oui, bon, mais on a tué beaucoup au nom de Dieu, les gens, ils se basent sur l'Ancien Testament. C'est vrai que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu... en tant qu'enfant de Dieu, on lit toute l'écriture. Parle de Christ, de la première page à la dernière page. Et quel encouragement pour nous à cette époque de Noël de pouvoir le dire, hein. Le Christ qui nous sauve n'est pas quelqu'un qui est sorti du chapeau d'un homme, non, c'est le Dieu de toute éternité. C'est le plan que Dieu a établi de toute éternité, dont il est question dans la Bible. Et nous ne faisons à Noël que célébrer comme on a vu dimanche, l'accomplissement de toutes ces promesses. Il y en a d'autres qui doivent être encore accomplies, mais l'accomplissement de tout ce qui avait été dit concernant sa venue. Hein. Et ce doit être aussi notre joie. Donc Noël ne commence pas, chers frères et sœurs, avec les évangiles. Il commence en Genèse et se termine, si vous voulez, l'histoire en tout cas se termine dans son plein accomplissement à dans l'Apocalypse. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à aimer sa parole, à la lire et à la méditer, et demandons-lui la grâce de voir Christ dans ce que nous lisons. Alors, ne faisons pas des interprétations propres, mais quand Matthieu l'a fait comme ça, on peut s'en saisir, et parce que il l'a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, et louer Dieu avec cela. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, et merci de nous aider par ton esprit à lire ta parole comme tu le veux, comme les auteurs inspirés l'ont voulu par toi, Seigneur. Je te prie que tu nous donnes d'aimer ta parole. Et qu'en ces jours que nous vivons, les jours particuliers, que ta parole demeure la joie et l'allégresse de notre cœur. Merci d'avoir pourvu un sauveur pour nous. Merci d'avoir appelé ton fils hors d'Égypte afin qu'il nous sauve parfaitement de nos péchés. Que ton nom soit béni. Amen.